doa, bau tong doa.
Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires. Ce soir, je suis avec Ludo. Bonsoir Ludo.
Bonsoir.
Voilà. Alors, au programme de cette émission, nous allons parler de la radiation importante des demandeurs d'emploi en août due à un bug informatique de SFR Orange. Nous parlerons également du travail forcé en Angleterre, du travail du dimanche qui fait effectivement parler beaucoup de gens et fait couler beaucoup d'encre. Également du logement et des prix chers des loyers, bien sûr. Donc un gros programme pour cette soirée. Merci. Et oui, effectivement, nous avions connu le bug de l'an 2000 qui n'avait pas eu lieu. Mais là, pour le coup, ça s'est bien passé. C'était en août dernier. Donc, il y a eu 50 000 demandeurs d'emploi radiés en août dû à un bug de SFR Orange. En effet, 170 000 demandeurs d'emploi n'ont pas reçu de SMS de rappel puisqu'en fait, Pôle emploi a demandé à SFR Orange de faire le nécessaire pour réunir tous les chômeurs qu'il fallait faire un rappel de enfin, leur demande hein, pour toucher leur salaire. Leur actualisation, merci Ludo. Donc 77 500 radiations de plus par rapport au mois de juillet et personne ne s'en est soucié. Donc quand un gros chiffre comme ça arrive sur la table, personne ne réagit. Il y a même eu Monsieur Sapin qui a dit sur une antenne télévision qu'effectivement il était content de cette amélioration du chômage. Et il s'est rendu compte après qu'effectivement il y avait une erreur, donc effectivement une grosse erreur qui fait que on se pose des questions sur les statistiques hein, qui sont données par la DARES et par le Pôle Emploi. Oui, Ludo, tu voulais dire.
Oui, non, oui. Je vais juste peut-être faire un commentaire, c'est que le souci, c'est qu'aujourd'hui avec la DARES, bon, c'est des sources administratives, comme ils disent dans le jargon, mais ça veut dire qu'on prend en compte uniquement les personnes qui sont donc inscrites à Pôle Emploi. Et donc c'est la seule visibilité du chômage, c'est une personne qui est inscrite voilà à Pôle Emploi et qui n'a pas travaillé au cours du mois. Hein. Or évidemment, alors pour les trois quarts des gens, ça peut paraître évidemment, on est au chômage seulement quand on est inscrit à Pôle Emploi pour beaucoup de personnes. Et voire pour d'autres, on est inscrit à Pôle Emploi juste quand on est au chômage juste quand on touche des indemnités, c'est-à-dire qu'on a travaillé avant. Donc, mais bon, c'est pas le cas réel du chômage. Est au chômage celui qui cherche un emploi en fait, hein, et qui ne travaille pas. Donc du coup, déjà il y a cette première limite oui. des statistiques de Pôle Emploi, donc de la DARES et et il y en a une deuxième, c'est les règles administratives qui ont été pondues au cours de la précédente mandature, et notamment ce fameux contrôle mensuel et cette actualisation mensuelle qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde les chiffres les statistiques, il y a une case radiation administrative. Donc radiation administrative, c'est clairement une sanction. Hein, c'est-à-dire que notre ami chômeur aurait pu refuser plusieurs offres d'emploi et aurait été radié manu militari.
Ou de la troisième,
entre autres. Et donc c'est rentré comme ça. Donc de mémoire, je crois qu'au mois d'août, il y en a eu entre 30 et 40 000, je crois, ce qui est quand même impressionnant. Donc radiation administrative, c'est quand même des gens qui sortent hein, des chiffres du chômage, enfin qui sortent de la liste des inscrits à Pôle emploi.
Tout à fait.
Et à côté de ça, on a une sortie. Alors, dans les sorties, il y a la sortie reprise d'emploi, déclarée donc, c'est-à-dire que le chômeur fait un effort pour informer Pôle emploi de sa nouvelle situation. Et puis, on a une autre case qui représente un nombre considérable de gens, qui est défaut d'actualisation. Donc, ces fameux SMS qui ne sont pas arrivés, c'est ça, c'est-à-dire que vous avez oublié de signaler à Pôle emploi si vous avez travaillé ou pas ce mois-ci. Et donc, visiblement, donc ça représente un chiffre considérable, hein. C'est 277 000 juste pour le mois d'août. Ah oui, c'est énorme.
Énorme.
Et alors, et donc, évidemment, de chômeurs dans toute situation, hein, dans toute catégorie, c'est-à-dire chômeurs ayant travaillé un peu, beaucoup,
pas du tout.
Voilà, la catégorie ABC. Et donc, c'est sur ces 277 000, on peut supposer qu'un certain nombre sont réintégrés le mois d'après, parce que cette fois, ils pensent que ça serait actualisé. Or, d'après là, d'après ces statistiques, donc c'est des statistiques qui sont corrigées, hein, puisqu'on a quand même finalement à Pôle Emploi, c'est un espèce de flux d'entrée et flux de sortie. Il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent. Donc, grosso modo, il semblerait que les statisticiens arrivent à faire la part des défauts d'actualisation qui va se reporter sur le mois d'après et qui n'est pas vraiment une sortie des chiffres du chômage et de ceux qui sont vraiment en fait qui ont repris une activité sans le déclarer, voilà. Et là quand même il y a eu un bug assez important puisque de mémoire, hein, on a compté sur une baisse donc de 50 000 demandeurs d'emploi donc le mois dernier. En catégorie A, hein, pardon. Donc en personne n'ayant pas du tout travaillé, enfin étant vraiment au chômage total, donc ce qui représentait moins 0,5%. Or, en fait, on avait une sortie réelle de 77 000. Oui. Et donc 20%, 77 000, hein, c'est beaucoup.
C'est
et donc 20 000 étaient concernés par cette histoire de SMS, semble-t-il.
C'est ça.
Donc ouais. Voilà. Donc on a en fait 50 000 personnes, dont en réalité, on ne sait absolument pas ce qu'ils sont devenus.
Et pourquoi ils ont été radiés, surtout
Ils sont pas radiés.
Enfin,
pourquoi il y a eu un défaut d'actualisation.
Il y a eu un défaut d'actualisation, voilà, c'est ça.
Mais c'est surtout cette case, la défaut d'actualisation, donc c'est-à-dire personne qui ne pense pas à s'actualiser, parce qu'elle est peut-être, c'est peut-être un oubli, c'est peut-être qu'elle a retrouvé du travail, c'est peut-être aussi qu'elle voit plus l'intérêt d'être à Pôle emploi parce que elle est pas indemnisée, donc ça c'est fort probable. Et ben c'est 50 000, on n'a aucune statistique là-dessus qui nous indique quelle est la part des gens qui ont repris une activité sur ces gens-là. Or c'est ça qui semble important et qui, enfin à mon avis, indique quand même une sacrée limite. Ou alors il faut qu'on nous explique le contraire, mais une sacrée limite dans cette statistique-là de
alors,
Pôle emploi.
Pour aller dans ton sens, selon Pôle emploi, effectivement, après ce bug en question, 25 000 parmi ces 50 000 seraient déjà réinscrits.
Hein. Voilà, ce qui donc, était prévisible en fait.
Alors, oui, bien sûr.
Pour être honnête, personne n'a vraiment cru qu'au mois d'août, il y avait une baisse significative du chômage. Pourquoi au mois d'août, à une période où c'est quand même plutôt calme,
période de vacances en plus,
c'est une période de vacances, les chiffres étaient quand même un petit peu anormales. Oui. Et donc voilà. Donc alors c'est vrai que nous on en parle un peu beaucoup ici, mais il y a eu deux articles dans Le Monde successifs hein, sur les ratés des chiffres du chômage. Et donc le dernier disait finalement on ferait bien de se reporter sur les statistiques de l'INSEE, donc l'enquête l'enquête emploi donc qui produit des résultats trimestriels qui en principe est plus fiable puisqu'elle elle prend en compte des gens.
D'autant qu'elle a le label, hein,
qualité statistique. Ouais. D'accord, mais bon, après tout, c'est un,
oui,
voilà.
Oui.
Et, je veux dire, elle est censée être plus fiable puisqu'elle concerne aussi des gens qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi. Sur des critères très stricts, enfin très resserrés aussi. Hein. Il faut vraiment ne pas avoir travaillé une seule heure dans la semaine, voilà, précédent, nanana. Et donc c'est censé être plus fiable. Sauf que finalement, on sait que depuis la réforme de 2007, les statistiques de l'INSEE ont plutôt convergé avec les statistiques de la NPE, tout en ne représentant pas tout à fait la même population. C'est-à-dire qu'on avait durci les conditions pour être inscrit au chômage, notamment via la recherche active. Alors, il semblerait que depuis, dans les questions de l'INSEE, on peut déclarer simplement être inscrit à Pôle emploi et dans ce cas-là, rentrer automatiquement dans la case. Voilà. Mais cela étant dit, il n'y a pas de grande différence entre les statistiques de l'INSEE et les statistiques de Pôle emploi. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'on. Alors le Monde disait finalement peut-être qu'on ferait bien de faire une publication mensuelle des statistiques de l'INSEE, mais bon, il faut bien dire que ces deux sources différentes introduisent une confusion quand même dans l'esprit des gens, semble-t-il. Hein, voilà, semble-t-il, et que en l'occurrence ces règles administratives des statistiques de la NPE. Il y a une espèce de variation, c'est pas d'une fiabilité absolue, quoi.
Mais apparemment, cette erreur serait due effectivement à une erreur humaine dans le cadre d'une au niveau informatique, hein, qu'ils ont pas fait la mise comment on appelle ça, ils ont pas planifié, si tu veux, ils ont pas remis l'ordinateur à jour, en fait, c'est ça, hein, l'histoire. Et donc, ça aurait été à la cause du problème informatique.
Oui, mais alors. Mais
moi, la question que je me pose, je te la pose, Ludo, parce que toi, tu connais bien le système, un petit peu.
Je suis censé
connaître le système.
C'est parce qu'on en parle ici, c'est tout.
Dans la statistique, en général, effectivement, on peut sortir n'importe quel chiffre. Il suffit simplement de poser des questions différentes. On peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut, en définitive. Ben, tout dépend de la question. On peut orienter les questions pour que les réponses aillent dans le sens où on veut qu'elles aillent ou pas du tout. C'est la question que je peux poser. Enfin, parce que là, apparemment, là, c'est.
Enfin, dans le cas de Pôle emploi, ça n'a rien à voir.
Oui,
je veux dire, c'est des sources administratives. Donc après, c'est une autre. Il semblerait, donc, comme on a parlé la dernière fois, que sur la dernière version de l'enquête emploi INSEE, ce soit juste une modification d'une question qui fait baisser de façon importante les demandeurs d'emploi. Voilà. Mais c'est une modification qui est infime.
Hein, c'est infime, je crois,
c'est
ça.
Voilà. Ouais. C'est plutôt un travail occasionnel. Voilà. Donc c'est pas voilà. Bon. Donc oui, c'est pas d'une fiabilité absolue. Oui, on le sait. Maintenant, cela étant dit, je veux dire, ça devient des. Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Parce que finalement, François Hollande en a fait un objectif de campagne. Mais c'est un objectif de communication finalement, c'est-à-dire juste faire baisser la courbe du chômage à la fin de l'année de quelques, je sais pas combien. Et en plus, je veux dire, c'est vraiment un objectif politique dans le sens où, au moment de la campagne, semble-t-il, et d'après les informations du Monde, donc toujours. Il a misé sur les emplois aidés pour inverser la courbe du chômage. Et uniquement sur les emplois aidés. Donc voilà, donc on fait tout un verre d'eau, toute une tempête dans, mais je veux dire, la baisse, bon, même cette baisse-là était importante, hein, celle du mois d'août. Enfin, globalement, les chiffres du chômage sont quand même stables, quoi qu'on en dise. Alors, d'accord, ils ont arrêté d'augmenter. Donc, en tout cas, c'est ce que dit Eurostat concernant l'Europe. Hein. Mmh. Grosso modo, c'est stable.
19 millions, je crois, en Europe, c'est ça à peu près le chiffre.
12% dans la zone euro. Voilà, au lieu de 12,01 ou 12,1 le mois précédent. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Voilà, alors il y a une différence, hein, c'est 12% zone euro et 16 Europe. C'est-à-dire que, bon, voilà, faudra que les pays de l'Est, il y a moins de chômage, ils sont pas dans la zone euro, voilà. Et, mais bon, globalement, les chiffres restent stables. Globalement, ben, l'inversion de la courbe, la vraie inversion n'est pas pour demain, semble-t-il, enfin, d'après l'UNEDIC du moins. Donc voilà, donc, c'est vrai que nous, on est une émission qui parle du chômage, mais si on se concentre juste sur le nombre de chômeurs rapporté au nombre d'offres, grosso modo, il n'y a rien à dire de plus que il y a 3 mois, il y a 6 mois, en dehors que peut-être éventuellement le chômage a cessé d'augmenter. Voilà.
Alors moi, j'aimerais juste remettre un avis par rapport à ce qui vient d'être sorti sur ces statistiques du mois d'août. Moi, je trouve quand même effarant que ces gens-là ont effectivement un résultat en termes statistiques et qu'ils le sortent alors qu'il y a effectivement une erreur qui pourrait être, je sais pas, du 200 000 personnes, 50 000 en moins, ça fait quand même assez.
Mais c'est pas, alors, après les chiffres varient, là, on a une baisse de 50 000, celui qui a écrit, donc notre collègue du Mouvement National du Chômeur et Précaire, hein, a publié une lettre ouverte, donc qui date du 2 octobre, donc c'était il y a 2 jours, hein, donc c'était pour le directeur général de Pôle emploi. Et donc lui, ses chiffres, c'est voilà, l'augmentation brutale des cessations d'inscription pour défaut d'actualisation au mois d'août n'a à l'heure actuelle pas été éclaircie. Le bug de votre sous-traitant SFR ne concerne qu'environ 20 000 personnes. Donc il est bien renseigné. Mmh. Sur les 77 000 personnes supplémentaires qui ont disparu des listes en août. Nous ne pouvons donc nous satisfaire de cette explication. Donc effectivement, il y a peut-être un phénomène qui est tout simplement que des gens qui sont en fin de droit... qui n'ont pas de droit, parce qu'en principe ils devraient passer en l'ASS, ou qui n'ont pas de droit, c'est-à-dire qu'ils ne bénéficient pas de l'ASS, ne voient plus l'intérêt de s'inscrire à Pôle emploi, ça peut être une explication. Et donc ce serait une baisse en trompe-l'œil, mais voilà, on n'est pas des spécialistes ici et on n'en sait pas plus.
Ben, merci Ludo, en tout cas on va écouter une petite chanson, on reprend la parole par la suite, merci.
Ya basta, 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 ya
basta, ya basta. Et oui, vous les avez reconnus, c'est Joli Môme, c'est Ya Basta. Je suis toujours avec Ludo, c'est Gilles au micro et Claude à la technique. On reprend cette émission sur le chômage, bien sûr. Donc nous allons parler maintenant, si tu le veux bien, du travail forcé en Angleterre, Ludo.
Et oui, puisque les bonnes recettes arrivent en Europe. Donc bon, j'exagère un peu parce qu'elles étaient déjà effectivement en Allemagne, mais on a en Angleterre. Le gouvernement Cameron a quand même choisi d'avoir recours, enfin, au travail, ce qu'on appellerait, nous, le travail forcé des chômeurs de longue durée. Donc, de quoi il s'agit exactement ? Ben, c'est très simple. C'est qu'en fait, désormais, les chômeurs qui ont plus de... Alors, je vais vous dire ça, hein, c'est 200 000 chômeurs qui sont concernés, c'est les chômeurs de longue durée, et donc, ça fait, donc, qui ont plus d'un an de chômage, semble-t-il, seront répartis en trois catégories. Donc, un tiers d'entre eux devront réaliser 30 heures hebdomadaires de travaux d'intérêt général en échange de leur indemnité qui se monte à 71 livres, c'est-à-dire 85 euros par semaine. Donc voilà. Faites le calcul, 85 par 4, c'est pas baisé, c'est même pas... Voilà.
Ils sont trop bien payés, ces gens-là.
Voilà, ils sont trop bien payés, comme tu le dis. Voilà, donc un autre groupe concernera des chômeurs déjà enrôlés dans des stages d'insertion et devront consacrer 10 heures par semaine, donc en plus de leur formation à la recherche d'un travail, et pointer tous les jours dans l'agence locale pour l'emploi. Voilà. Pour les deux catégories, ceux qui échoueront à remplir ces conditions seront privés de leur allocation pendant 4 semaines à la première infraction, 3 mois dès la seconde. Une troisième catégorie de chômeurs de longue durée affectés par des problèmes de drogue, d'alcool et d'analphabétisme ou de santé mentale devra effectuer des stages sous la supervision des agences pour l'emploi. Alors super. Donc ça c'est alors ces mesures de réinsertion par du travail non rémunéré succèdent au dispositif controversé baptisé Work Program. Excusez-moi pour l'accent, dans lequel des chômeurs étaient placés gratuitement pour 6 mois dans des entreprises. Selon une étude récente, seuls 14% de ceux qui avaient suivi ce programme avaient retrouvé un emploi stable. Donc vous voyez, ça fait un peu plus d'une personne sur 10.
Question idiote à la limite, comment ils faisaient pour manger ces gens-là qui travaillaient 6 mois gratuitement pendant...
Ils bénéficient de leur indemnité.
Ah oui, ils restent indemnisés par l'indemnité. D'accord.
Exactement. D'accord. Outre-Manche, ces propositions radicales ne suscitent guère de controverses, car l'opposition travailliste s'est gardée de les critiquer directement, car elle-même devait prévoir d'entourer le chômage de contrepartie, mais dans un esprit fort différent. Le leader du labour a proposé la semaine dernière d'offrir un emploi d'un an garanti rémunéré à tous les chômeurs de longue durée s'il était élu en 2015. Ben c'est sympa, ça. Voilà des promesses qui nous... Un emploi garanti, c'est une grande revendication d'AC, quoi. Bon, il parle pas trop de la rémunération, bien sûr, hein. Du niveau de la rémunération. Selon un récent sondage dans YouGov, plus de la moitié de la population britannique est d'accord sur l'idée de faire travailler les chômeurs en échange de leur allocation. Seulement 17% soutiennent l'idée d'un emploi garanti. Voilà. Et si le chômage a légèrement baissé en Grande-Bretagne, à 7,7% de la population active, le nombre de sans-emploi de longue durée reste très élevé. 469 000 personnes, vous voyez, en juillet, soit 27 000 de plus qu'un an auparavant. Donc grosso modo, il y a une catégorie de la population qui décroche. Voilà. Alors, pour donner un ordre d'idée, en France, il faut compter à peu près un peu moins de 500 000 chômeurs inscrits depuis plus de 3 ans à Pôle emploi, toutes catégories confondues.
C'est déjà pas mal.
Voilà, donc là, chômeur de longue durée, je suis incapable de vous dire à partir de quel moment on est chômeur de longue durée en Grande-Bretagne. Je l'ai su, mais je ne retrouve pas le chiffre. Hein. Je crois que c'est un an et demi, 2 ans.
En France, c'est 12 mois, je crois, hein, il me semble.
C'est un an et demi.
C'est un an et demi aussi ? D'accord. D'accord, très bien.
Mais c'était juste un commentaire là-dessus, parce qu'en fait, quoi qu'on en dise, en Grande-Bretagne, il n'y a pas une masse d'emplois, rémunérateurs. Cool. Je veux dire, il y a, pour le semble-t-il, moins de chômage qu'en France, mais il y a beaucoup de petits boulots très très mal payés. Oui.
Comme en Allemagne d'ailleurs, apparemment, il y a beaucoup de pauvres aussi en Allemagne.
Exactement. Oui, en Allemagne, il n'y a pas de SMIC dans les services. Donc, à la lecture de cet article, on peut pas s'empêcher de penser qu'il s'agit pas réellement de lutter contre le chômage, mais qu'il s'agit beaucoup plus d'occuper une partie de la population qui qui est oisive en fait, hein, enfin qui est considérée comme oisive, et ma foi, qui pourrait représenter, on ne sait trop quel danger pour les actifs, et où ça pourrait même, comment dire, ça serait une atteinte à la morale publique de voir tous ces gens buller avec même pas 400 euros par mois en fait, hein, vu le prix des loyers à Londres, bon, je vous raconte pas ce que ça peut donner, quoi, et donc jusqu'au point, hein, d'aller imposer des cours d'alphabétisation, enfin à des gens qui seraient atteints d'alcoolisme, de maladies mentales, etc. quoi. Donc voilà, donc on a vraiment un prototype de mesures qu'on pourrait qualifier de réactionnaires,
tout à fait,
au sens propre du terme, c'est-à-dire que ça ne sert à rien, mais ça conforte la
les
morale
politiques,
publique.
Voilà, c'est ça. Voilà. Alors dis-moi, Ludo, en Europe, apparemment, il y aura une baisse du chômage. Je crois que c'était à 19 millions.
Je sens bien que tu milites pour que François Hollande tienne ses promesses.
Voilà.
Et que tu crois vraiment.
J'y crois pas trop,
mais
mandat,
enfin, à son mandat. Alors oui. Alors je vais me garder de confirmer, hein, de te contredire. Donc oui, il y a vraiment une baisse. Si. Puisqu'effectivement, il y a encore, hein, 19 millions de personnes au chômage, d'après Eurostat en Europe. Donc. Et effectivement, le taux de chômage a légèrement reculé en juillet dans la zone euro. Il est passé de 12,1% à 12%.
Ah oui.
Voilà.
À 0,1 point, c'est pas mal quand même.
Je peux pas dire la preuve ce que ça représente, mais en nombre, mais voilà. Voilà, selon des données publiées mardi par Eurostat. Voilà, donc la seule information, c'est que c'est la première fois que le taux de chômage recule, ou enfin on va dire reste stable, c'est quand même de la zone euro depuis février 2011. Donc ça date, hein, ça fait plus de deux ans et six mois. Donc Eurostat précise que les erreurs concernant le nombre d'inscrits au chômage en France n'ont aucun impact sur le taux de chômage de la France, tel que le calcul Eurostat, avec les données françaises, hein, bien sûr. Et qui plus est, ces données concernent le mois d'août et non le mois de juillet. Bon, d'accord, ok, on a compris. Voilà. Dans l'ensemble de la zone euro, le taux de chômage a été stable, donc à 12% en août, et cela se traduit effectivement par quelques 19,17 millions de personnes au chômage. Un chiffre stable par rapport à juillet. Malgré cette stabilisation, les chiffres montrent que le chômage n'a cessé de croître en un an, puisque il s'agit bien de 895 000 personnes qui sont venues grossir les rangs depuis août 2012, donc sur un an. Donc c'est beaucoup. Dans l'Union européenne, alors, l'Union européenne au sens large, le taux de chômage lui s'élève à 10,9%. Alors là, je sais. Alors bon. Là, vous voyez, il y a une remarque quand même qui s'impose, c'est que quand on parle de l'Europe, donc il faut compter les pays de l'Est qui ne sont pas dans la zone euro. Alors le problème de certains pays de l'Est, c'est que donc on a certains pays où le taux de chômage est quand même très important, d'autres moins. Donc on peut être déjà surpris, hein, de cette statistique. Et surtout, même quand le taux de chômage est bas, on sait qu'il y a une économie informelle qui est très importante dans certains pays, donc je pense notamment à des pays de l'ancienne Yougoslavie, et qui effectivement ne sont pas
deux
en Europe,
économie, hein, certes, une économie de l'économie
parallèle, mais du coup, je veux dire, les statistiques sont difficiles à établir et le taux de chômage peut parfois être beaucoup plus important que le taux réel. Donc voilà, donc là bon, moi je comprends pas trop l'info là, hein, Union européenne 10,9%. Voilà, touchant donc 26,59 millions, bah évidemment, c'est un peu plus de monde dans l'Union européenne, d'hommes et de 27 millions d'hommes et de femmes. Voilà, donc sans surprise, la situation est critique en Grèce et en Espagne, puisque le chômage touche plus d'un actif sur quatre et plus d'un jeune sur deux. Donc en Espagne, pour rappel, hein, le chômage est resté stable à 26% de la population active, et il est à 28% plutôt en Grèce. Voilà, où les dernières données disponibles datent de juin. En revanche, le taux de chômage le plus faible a évidemment été enregistré en Autriche, en Allemagne ou au Luxembourg, avec des taux délirants de 5% à peu près, 6% au Luxembourg. Donc là, il faut quand même faire une remarque, c'est que la population active en Allemagne et en Autriche baisse. du fait de la faible natalité.
Oui. Et du vieillissement de la population.
C'est un impact important.
Hein.
Je veux dire, en France, on est très étonné de s'apercevoir qu'on a beau avoir une population qui vieillit et des baby-boomers qui sont quand même, qui passent la barre des 60 ans, on a toujours une masse d'actifs beaucoup plus importante qu'en Allemagne, de jeunes actifs qui déboulent sur le marché du travail, qui est une cause de l'augmentation du chômage.
Mais il y a une explosion des naissances depuis 2004, hein, de toute façon, là,
pas une explosion des naissances, on est à deux, je veux dire, on est juste au seuil de renouvellement des générations.
Oui, mais j'ai trouvé qu'en 2004 et 2005, enfin, j'ai même après 2006 et 2016, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de naissances, j'avais lu des chiffres là-dessus.
D'accord.
Il y a eu beaucoup de naissances par rapport à d'autres périodes de dans les années 90-2000, c'était moins, quoi. Là pour le coup.
Vive la crise.
Mais tu sais, qu'en même temps, il paraît que les gens font des bébés, enfin, font des enfants à partir du moment où ils sont angoissés par le travail et par l'emploi.
Mais ce que je te dis, on va attendre de voir les naissances au moment de la crise. Hein,
voilà, tout à fait.
Qu'est-ce que ça va se passer, ça, c'est intéressant. Mais tout est rigolo, Gilles. On peut pas en rire avec n'importe qui, c'est tout.
C'est clair. Merci, Ludo. En tout cas, c'était impeccable. Je vais écouter une petite chanson, une deuxième, et puis ensuite, on prendra la parole sur le travail le dimanche qui pose aussi un problème. Merci. Bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans l'émission Mode d'emploi avec Ludo au micro. Salut Ludo.
Bonsoir.
Gilles moi-même et puis également bien sûr Claude à la technique. Donc pendant cette émission pour parler bien sûr d'une chose qui va pas nous fâcher mais qui est quand même intéressante, c'est la grande polémique autour du travail le dimanche puisqu'effectivement Bricorama, Sephora, etc. ont ouvert leurs entreprises le dimanche et ça pose un certain nombre de problèmes juridiques puisqu'ils ont été déboutés par des juges, on leur a demandé de fermer le dimanche mais ils continuent à ouvrir quitte à payer l'amende qu'ils devront payer évidemment. Alors il y a quand même un article de loi, il y a quand même une loi en France, donc c'est le règlement c'est le droit du travail hein. Donc un salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine, au moins un jour de repos 24 heures consécutives auquel s'ajoute un repos quotidien minimum de 11 heures doit lui être accordé chaque semaine et en principe le dimanche. Bon, on a choisi le dimanche, je ne sais pas pourquoi, mais c'est le repos dominical.
À ton avis ?
Oui, pour aller à la messe, certainement. Toutefois, le principe du repos dominical connaît plusieurs types de dérogations qui peuvent effectivement, selon les cas, être permanents ou temporaires, selon les régions, le tourisme, etc. etc.
Ouais.
Et donc, le Code du travail donc prévoit effectivement un jour de repos. Et là, apparemment, ces entreprises-là n'ont pas voulu accorder ce jour de repos à leurs salariés. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai ? Est-ce qu'il y a quand même un jour de repos, mais un autre jour ?
Ah oui,
c'est un autre jour.
Non, mais il faut quand même préciser deux choses. Il y a d'abord qu'effectivement, le repos dominical est obligatoire, comme tu l'as rappelé, mais qu'il y a un certain nombre de secteurs qui ont des dérogations permanentes, d'accord ? Et lesquelles, donc, par exemple, la restauration. C'est-à-dire, effectivement, on n'envisage pas qu'un restaurant soit fermé le dimanche, parce que c'est le jour, justement, au resto, ou qu'un bar tabac aussi. Mais aussi des entreprises, comment dire, qui ont une nécessité de production, en fait. Hein. Alors, ce qu'on dit exactement, c'est dans les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public. Voilà, donc c'est assez vaste. Dans ces cas-là, il n'y a pas besoin d'une autorisation administrative. Donc le repos hebdomadaire est alors attribué par roulement. Donc certains salariés seront donc amenés à travailler le dimanche. Alors je prends un exemple qui n'a rien à voir. Ben, on va à l'hôpital. Oui, vous avez des gens qui travaillent les dimanches, ça c'est sûr. Mais donc dans le secteur économique stricto sensus, sont par exemple concernés des établissements appartenant donc aux catégories de la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate. Donc hôtels, restaurants et débits de boissons, débit de tabac, entreprises de spectacle aussi. Hein. La liste complète des activités, donc effectivement, se trouve dans le Code du travail. Voilà. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que le repos hebdomadaire se fait par roulement. Et ça s'applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités déterminées dans le fameux article de loi. Donc, et il y a effectivement des dérogations des commerces de détail alimentaire, voilà. L'activité exclusive ou principale de la vente de denrées alimentaires. Bref, je dis tout ça, pourquoi ? Parce que ça, c'est tout un secteur qui échappe au repos dominical de façon permanente. Mais ensuite, il y en a un autre, qui sont les dérogations conventionnelles au repos dominical. Et ça, Ça veut dire que c'est soumis à une convention ou à un accord collectif étendu ou à un accord d'entreprise. D'accord. Et dans ce cas-là, ce qu'il arrive souvent, donc je simplifie parce que le texte de loi c'est même pas le texte de loi, c'est le rappel sur le travail du dimanche se trouve sur le site gouv.fr et il est bien épais. C'est que cet accord en fait, ou de branche ou d'accord d'entreprise, nécessite des contreparties qui sont accordées aux salariés. Donc on en connaît certaines et c'est que souvent les heures du dimanche c'est 50% de plus, vous voyez.
Ce sont des heures majorées,
ça. Voilà, il y a aussi des devoirs, c'est que c'est du volontariat. Bon, il y a un certain nombre de contraintes légales mais c'est aussi de la négociation. Or dans le cas donc de la négociation, et bien sûr que en travaillant le dimanche, on a le minimum de repos hebdomadaire requis, donc 24 heures, mais le code, si on applique strictement le code du travail, on peut avoir 2 jours de plus, en fait.
Oui, le lundi et le mardi, par exemple.
Non, mais en plus de ces jours de congé
annuel,
de ces jours habituels, c'est-à-dire que quand c'est exceptionnel, travailler un dimanche, vous récupérez 2 jours derrière. Bon, tout ça est soumis quand même à négociation.
Oui, mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas.
Justement, tout ça est soumis à négociation. Or, ce qui s'est passé, parce que ça choque énormément tout le monde, les syndicats bloquent,
voilà.
Ce qui se passe, c'est que dans certains cas, la direction peut passer en force et décréter qu'on va travailler le dimanche. Mais elle sera obligée de respecter le fait que ce soit du volontariat quand même. Et dans ce cas-là, s'il n'y a pas d'accord, de majorer les heures sup. Mais elle doit soumettre à un moment donné son choix à référendum auprès des salariés. Bon, dans le cas, par exemple, de Monoprix, parce qu'on a on hurle là.
Excuse-moi, j'ai 2 secondes parce que moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que quand tu parles de volontariat, quand c'est le patron qui demande à son employé de travailler le dimanche, je vois pas où est le volontariat, parce que si le salarié demande d'être volontaire pour travailler le dimanche, là, il y a aucun problème. Mais s'il refuse, il peut y avoir des pressions derrière, chantage au chômage.
Justement, les textes de loi sont clairs. Il ne doit pas y avoir de mesures de rétorsion. Licenciement ou même refus d'embauche, parce que refus de travailler le dimanche. Voilà. Maintenant, concrètement, on sait un peu comment ça se passe aussi dans les entreprises. Voilà. Donc effectivement, quoi qu'il en soit, je veux dire, ça fait le travail du dimanche est l'objet d'une réglementation et d'une exception, parce qu'il y en a, il y a encore une autre exception qui est celle des zones touristiques.
Exact.
Voilà. Et oui, donc, c'est décrété par la. Oui, mais bon.
Oui, mais
là, sur les Champs-Élysées, c'est décrété comme une zone touristique. Et donc là, c'est le préfet, la commune qui aussi décide dans cette zone-là si on peut effectivement travailler le dimanche. Bon, tout ça pour dire que dans les cas qui nous intéressent, donc en l'occurrence le cas de Monoprix, de Sephora,
de Bricorama.
Alors, dans le cas de Monoprix, il s'agit non pas de travailler le dimanche, mais d'ouvrir au-delà de 21h. Donc c'est pas tout à fait pareil, non. Mais il s'agit quand même effectivement qu'au départ il y a un blocage entre le syndicat, donc en l'occurrence le syndicat CGT, et la direction sur les contreparties à accorder aux salariés s'ils travaillent le dimanche. Et en cas de blocage, ma foi, c'est ou un référendum auprès des salariés ou rien. Et donc, effectivement, Monoprix est passé outre.
Oui.
Et elle a perdu, tout simplement, devant les tribunaux. Et moyennant quoi ? Donc, c'est l'histoire. Enfin, je veux dire, c'est un rapport de force, c'est un conflit social. Voilà. Et moyennant quoi, elle a dénoncé la concurrence.
Évidemment.
Voilà. Et donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, du coup, on se retrouve, le juge met son nez, il se retrouve à interdire toute activité, effectivement, qui ne fait pas l'objet d'un accord. Alors, volontariat ou pas volontariat, il faut quand même un accord à un moment donné dans l'entreprise. S'il n'y a pas d'accord, on passe pas en force. Voilà. Donc, c'est quand même le résultat d'un conflit social. Pour Sephora et pour Brico et...
Ils ont fait appel, je crois, en plus, non ?
Alors, ils ont fait appel, bien sûr. Alors, je dis une bêtise, c'est que c'est pas Monoprix qui a dénoncé la concurrence. Monoprix s'est trouvé interdit, en fait, d'ouvrir après 21h. Juste pour information, 300 magasins sur Monoprix en France, 94 sur les 394 ouvraient au-delà de 21h. dont 3 au-delà de 22 heures, ces derniers étant tous situés à Paris, notamment le magasin des Champs-Élysées, ouvert jusqu'à minuit. Voilà. La fermeture anticipée ne concerne cependant que les supermarchés, à noter, et pas les magasins de taille intermédiaire qui ne sont pas concernés par la procédure judiciaire ou et même les petits formats quoi, puisqu'ils ont une convention de branche qui les autorise le travail de nuit. Donc vous voyez, c'est très très localisé. Hein, il s'agit pas d'interdire d'un coup le travail du dimanche quoi. Et donc alors voilà, oui. Donc je passais donc à Sephora et à Casto. Il se produit à peu près le même phénomène, c'est qu'il y a effectivement des salariés volontaires qui sont prêts à travailler. Mais qu'il y a aussi quand même un blocage des syndicats qui concerne les contreparties. Voilà. Donc, contrairement au Monoprix, Sephora n'avait pourtant pas conclu d'accord d'entreprise sur le travail nocturne. C'est-à-dire qu'elle avait imposé le travail nocturne sans à ses salariés. Enfin, imposé, toujours, sur la base du volontariat, on est bien d'accord, mais oui. sans passer par un accord
Et sans majorer les salariés. Sans majorer les heures.
Alors si...
La récupération,
Si, elle est là, elle est obligée, quoi. Mais bon, dans quelle proportion, ça, je ne peux pas le dire. En tout cas, elle estime que ça faisait 20% du chiffre d'affaires était réalisé après 21h. Hein. Voilà, donc effectivement, les tribunaux, d'abord, absence d'accord de... entre entreprises, et puis il y a rien qui justifie effectivement qu'on ait que aller acheter du parfum soit après 21h soit une demande nécessaire et indispensable au public.
C'est évident.
Donc bon,
ou même acheter un clou un dimanche alors qu'on peut l'acheter le lundi, c'est vraiment pas.
Alors voilà, il reste le cas effectivement de Brico, Casto, voilà. Et alors voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est qu'en fait le tout à l'heure, et je m'étais un peu trompé, c'est que c'est le concurrent Bricorama qui a saisi le juge, hein. Et donc le juge a constaté que ces magasins ne relevaient d'aucune des nombreuses dérogations au repos dominical. Voilà. Donc, et pourquoi effectivement, c'est qu'en fait il y a un problème entre Bricorama et le syndicat Force Ouvrière, et que mais qu'ils n'ont pas réussi devant les tribunaux, Bricorama a perdu, et donc ils ont attaqué tous les concurrents pour des pratiques similaires. Voilà. Donc, c'est pour vous dire sur les faits, quoi.
Il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est quand même qu'il y a des accords. Il y a des accords de branche, il y a les syndicats qui se réunissent avec les patrons pour pouvoir négocier un certain nombre de choses pour leur emploi. Il y a quand même effectivement en dehors de ça des conventions collectives, et dans ces conventions, je ne les ai pas toutes étudiées, loin de là, mais bon, il est quand même dit certaines fois quand même qu'on a le droit à un certain nombre de jours de vacances par an, on a le droit à un certain nombre d'heures et qu'il n'est pas indiqué.
C'est pas parce qu'on travaille
dans
le dimanche qu'on perd des jours de congé.
Non, je suis d'accord. Le problème, c'est que le dimanche et le samedi, c'est éventuellement le samedi. Je sais bien que le samedi, beaucoup de gens travaillent le samedi, hein, mais quand même, c'est deux jours qui sont fermés. Quand on a des enfants, par exemple, ben c'est les deux seuls jours où on peut voir ses enfants réellement, quoi, parce que le soir on rentre crevé, le matin partout quand on travaille. Effectivement,
oui, puis le reste dans la semaine ils sont à l'école.
Exactement. Donc le dimanche, en plus il faut travailler le dimanche pour faire plaisir au patron, parce que c'est le volontariat, j'y crois pas une seconde, mais enfin on sait jamais, pourquoi pas, hein. Il y en a qui veulent travailler le dimanche, c'est vrai, mais sur la masse
ça rapporte plus normalement,
peut-être, mais bon, sur la masse c'est peut-être pas si important que ça.
Non.
Donc voilà.
Non.
Donc il faut vraiment réfléchir à ça, et puis surtout à appeler moi je suis, ça va à l'encontre en fait de la semaine des 4 jours, puisque moi en plus tu vois, donc ou des 35 heures quoi. Les 35 heures, c'était fait au départ pour créer de l'emploi, parce qu'on libérait des heures pour pouvoir créer de l'emploi. Ça s'est pas vraiment fait comme ça, malheureusement.
Non,
mais tu vois, c'est...
Moi, ce que je pense que ce craignent les syndicats, tout simplement, c'est que finalement, en rognant progressivement, effectivement, sur ce fameux dimanche, on finisse par que les avantages qui étaient acquis dans le Code du travail pour les heures travaillées le dimanche soit progressivement renié de facto, quoi. C'est-à-dire que il y a effectivement un chantage à l'emploi, à l'embauche, même si c'est normalement interdit, et puis qu'il y ait une baisse des salaires, parce que ça représente un coût quand même non négligeable de travailler le dimanche. Donc ce serait une espèce de détricotage de la législation qui réglemente le travail du dimanche. Après, sur un plan philosophique, effectivement, est-ce que on peut souhaiter qu'il y ait un jour où en France tout s'arrête ?
Oui, bien sûr.
Voilà. Enfin, tout s'arrête. Attention, hein, je veux dire, les magasins ont le droit d'ouvrir jusqu'à 13h le dimanche. Hein. Donc, oui. Donc les produits alimentaires, les voilà. Donc on a quand même du travail le dimanche. Hein,
oui, bien sûr.
Mais que qu'un certain jour de la semaine, toute la société s'arrête ou pas, et qu'il y ait cette espèce de parce qu'en fait, ce que dénoncent certaines personnes, c'est que finalement aujourd'hui, le travail a pris une telle place dans notre vie. C'est-à-dire entre les heures supplémentaires non payées, entre le travail qu'on fait chez soi. Donc effectivement, comme tu dis, laissant tellement de place finalement à la vie collective de la famille, au fait de s'occuper de ses enfants au moins un jour par semaine, qu'en décalant ou qu'en faisant un peu voler en éclat le cadre qui est posé, on se retrouve avec des...
Le travail, rien pour le reste.
Voilà, une espèce de décalage familial, de temps tout à fait différent dans les familles, ce qui ne serait pas forcément sain pour le travailleur, tout simplement.
Donc s'il fallait conclure quelque chose là-dessus, c'est qu'effectivement, dans un certain secteur, effectivement, lié au tourisme et une marge qui serait faite par les entreprises qui est intéressante pour elles, là, effectivement, on peut demander de travailler le dimanche.
Non, mais c'est déjà prévu.
En plus, oui, voilà. Oui, c'est ça.
C'est
voilà.
Hein, des zones touristiques, certains secteurs, nanana.
Ça met en cause rien du tout.
Donc, par contre, effectivement, c'est vrai que le cas du bricolage est intéressant, quoi. Je sais pas si vous aimez bricoler, mais effectivement, bricoler le dimanche et qu'il vous manque quelque chose, vous êtes bien content d'aller trouver quelque chose.
Moi, j'aime bien peindre les interrupteurs. Ça, c'est une chose que...
Mais bon, en tout cas, tout est déjà relativement prévu. Alors, dans ce cas-là, il faut que le législateur et puis quoi qu'on en dise, il faut l'accord aussi des salariés. Voilà, l'accord de l'ensemble des salariés.
Alors, je sais pas là si on aura le temps de parler de logement, Ludo, parce qu'il reste très peu de temps devant nous.
Oui.
On peut en dire quelques mots quand même. Une petite chanson et puis on prendra la parole par la suite pour les annonces.
Ils sont nés près de Barcelone, ils ont grandi en Australie, ils se sont aimés des nomades.
Et oui, c'était bien sûr le célèbre, le fantastique Jean Ferrat qui chantait Les Nomades, chanson que je dédie à tous les amis, copains et les personnes que je ne connais pas mais qui sont des Roms et qui sont maltraités par le gouvernement français aujourd'hui. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil à cette population qui est maltraitée en ces jours-là, voilà, en ce moment. Je ne sais plus ce que je dis, mais voilà. Donc on reprend cette émission, c'est Mode d'emploi sur 106.3 FM, les fréquences par pluriel, émission des chômeurs et précaires. Nous allons faire une émission bientôt spéciale sur le logement, parce que c'est quand même un sujet extrêmement important. Il nous reste quelques minutes pour en parler un petit peu, parce qu'il y a un livre qui est sorti, un livre de la Fondation Copernic, qui est une valeur sûre quand même, la Fondation Copernic. Alors Ludo, c'est...
Tout à fait, c'est les notes de la Fondation Copernic, en finir d'urgence avec le logement cher, et donc courez vite ou l'acheter. Donc il était rédigé par Jean-Baptiste Hérault, qui est donc le président du DAL, Claire Lestrade, Willy Pelletier, donc ils sont de la Fondation Copernic, Pierre Concieldi, beaucoup de gens, donc c'est vachement bien. Il y a plein de chiffres, et donc effectivement... Donc on va faire une émission là-dessus prochainement. Moi, je voulais juste revenir sur la mesure d'encadrement des loyers. Pourquoi ? Parce qu'on entend quand même beaucoup, il y a un débat des professionnels de l'immobilier qui dénoncent, c'est toujours le même argument en fait, ça va nuire à la construction de logements, à l'investissement locatif. Alors juste deux chiffres sur la question pour vous deux, pour que les gens prennent conscience quand même de l'aspect spéculatif aujourd'hui qui est devenu les loyers. Imaginez que les loyers ont augmenté de 50% depuis 2000 et de 100% depuis 1990.
Oh la vache. Ouais.
Voilà, donc depuis 1990, les loyers ont doublé. C'est deux fois plus vite que l'inflation. Donc ça, c'est les chiffres qui sont tirés
du bouquin en question.
Donc évidemment, sur cette mesure de Mme Duflot, il faut savoir qu'il existait déjà un encadrement des loyers en 2012 qui n'a pas fonctionné. Et qui n'a pas fonctionné pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle. Et ce que fait craindre cet encadrement des loyers de Mme Duflot, qui pourrait... serait une quelque chose de bien, hein, a priori. C'est que, donc, il y a deux choses qui sont à redouter. D'abord, Madame Duflot, donc, veut définir un loyer médian. Un loyer médian est donc majoré de 20%, ce qui serait la limite, en fait, dans lequel on peut augmenter ou fixer son loyer par rapport donc au loyer médian de toute une zone concernée.
On ne peut pas dépasser un plafond, on ne peut pas dépasser.
Exactement. Alors la question se pose, par exemple à Paris, je prends un cas concret, comment on va définir ce loyer médian ? Est-ce qu'on va prendre l'ensemble de la commune parisienne ou est-ce qu'on va le définir par zone, entre par exemple, je dis beaux quartiers et quartiers un peu moins beaux ? Dans un cas, si vous considérez l'ensemble de la commune, ce qui va se passer, c'est que bon, les loyers médians, évidemment, les beaux quartiers vont tirer à la hausse ce fameux loyer médian, puisque c'est pas une moyenne, mais voilà, c'est un chiffre. Or, on va tirer à la hausse, et ça veut dire que, en fait, on va raboter les plus hauts loyers qui sont dans les zones les plus aisées, et donc qui sont effectivement des loyers tout à fait scandaleux. Mais concernant les loyers du fin fond du 20e ou du fin fond du 18e, qui sont quand même méchamment élevé, si vous voulez, ça va tirer à la hausse quelque part le loyer. Vous voyez, c'est-à-dire que là, il y aura pas d'encadrement possible, et donc finalement, on va favoriser les ménages aisés, la réduction des ménages aisés. Donc c'est une critique qui revient et qui est pas à prendre à la légère. Hein. Je dis pas que c'est tout à fait que l'ensemble des lois est négatif, parce que par exemple, on sait très bien que plus la surface est petite et plus les loyers sont exorbitants par rapport au nombre de mètres carrés. Donc je parle des chambres de bonne, des choses comme ça. Donc ça, apparemment, on n'a pas encore étudié l'impact de cette loi-là, et peut-être que ça aura réellement un effet sur ces surfaces-là. Ça, on n'en sait rien.
On aura l'occasion d'en reparler de toute façon.
Voilà.
C'est sûr,
oui. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est déjà la première limite. Alors, et si on faisait autrement, donc si on définissait des zones par exemple par arrondissement, et ben finalement, ça veut dire qu'on entérine aussi cette disparité. Bon, ce qui est déjà le cas, mais on fixe cette disparité entre beaux quartiers, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui auraient le droit d'avoir un loyer beaucoup plus élevé parce que leur environnement fait que tous les loyers à peu près sont voisins, et puis des quartiers où le loyer est beaucoup plus bas. Donc, enfin, je veux dire, on entérinerait une espèce de ségrégation spatiale. Bon, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui fait craindre que ça marche pas du tout, c'est simplement la procédure qui consiste à avoir un loyer de référence dans la tête et avoir avec son bailleur et à dire « Monsieur, votre loyer est trop élevé et donc je vais saisir une commission de conciliation ». Apparemment, dans la loi, c'est comme ça que c'est présenté. Il n'y a pas encore les décrets d'application, on ne sait pas comment ça va se produire. Mais si c'est ça, le mécanisme de contrôle, vous savez bien que la loi du marché, quand même pas de l'offre et de la demande, va jouer complètement en défaveur. S'il y a 10 personnes, 15 personnes, comme actuellement, qui attendent pour prendre ce logement-là, s'il n'y a pas à un moment un contrôle strict qui interdit, une bonne fois pour toutes, de fixer le loyer au-dessus... Hein, voilà, et donc on peut même imaginer qu'il y a des locataires qui prennent blague. Donc
il y a quand même une bonne. C'est vrai qu'au niveau locatif, c'est juste au niveau locatif, normalement intramuros Paris, c'est 26 euros le mètre carré à peu près, et si on veut acheter, c'est 8800 euros à peu près le mètre carré. Mais maintenant, effectivement, les gens font ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre ça à 30 euros. C'est vrai qu'il n'y a pas de règlement là-dessus.
Pour le moment, il n'y a pas de règlement.
Mais ça prend quand même une bonne direction. Juste en quelques secondes, il y a quand même une garantie dans cette loi. Il y a quand même un système de garantie qui est une sorte de sécurité sociale du logement qui protégerait tous les locataires de bonne foi contre les risques d'expulsion locative. Ouais. Donc, encadrer les loyers, plafonner les frais d'agence, mieux protéger le locataire, réglementer les professions de l'immobilier parce qu'ils font un peu n'importe quoi aussi. Il faut le savoir. Et résorber l'habitat indigne. Donc on va mettre ça dans le détail de la prochaine émission sur le logement. Donc il y a quand même des bonnes directions maintenant.
Oui, mais est-ce que si la loi Duflot va réellement faire baisser les prix et puis résorber l'habitat insalubre?
Alors
c'est une autre affaire.
Merci Ludo en tout cas d'avoir fait cette émission avec moi. Cette émission se termine. Je vous rappelle simplement en finir d'urgence avec le logement cher, c'est donc la Fondation Copernic, collection Sileps, et c'est un livre qui coûte 7 euros. Donc même quand on est chômeur, on peut mettre 7 euros dans un petit livre. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission, de l'avoir entendue. Merci à Ludo et à Claude de l'avoir fait avec moi. Je vous retrouve dans 15 jours pour une émission sur l'économie solidaire et sociale. Et j'embrasse les filles et bien sûr une grosse poignée de mots, garçon. Ciao.
Bonsoir.
Sparkling band and only saw my mother's hand, the things I've earned. They never came too cheap, but then the lightness only goes so far.